ça a été vraiment un peu du hasard. Moi, j'ai toujours été très, très fort en PR, en relations publiques, de faire parler de nous. Ça a toujours été quelque chose que j'ai beaucoup fait dans tous mes business. Puis sincèrement, tout le monde m'a dit « Comment t'as fait pour gagner le Super Bowl? » C'est un peu plate, ils m'ont appelé.
Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 87e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis matin. Également, l'épisode d'aujourd'hui est présenté et produit par J7 Media, une agence de publicité Facebook. En gérant fièrement plus de 2 millions de dollars de publicité Facebook par mois, J7 Media aide depuis 9 ans maintenant les entreprises à accélérer leur croissance via l'entremise de la publicité Facebook et Instagram. Si vous désirez être au courant des meilleures pratiques dans l'industrie en ce qui concerne la pub Facebook, je vous invite à écouter le podcast Social Selling qui est mis en ligne tous les mercredis matin. L'équipe de J7 Media vous livre chaque semaine des études de cas réelles qui vont pouvoir vous aider à améliorer les performances de vos campagnes. Bâtisseur, fonceur, courageux, ambitieux seraient clairement des termes et des adjectifs pouvant se retrouver à côté du nom de l'invité du 87e épisode de Hypercroissance. Après avoir bâti une agence de marketing à plusieurs millions de chiffres d'affaires, pour ensuite se faire frauder et tout perdre du jour au lendemain, Dominique Gagnon a décidé de bâtir une nouvelle entreprise se nommant Connect & Go, qui réussit maintenant à l'international avec des clients comme le Super Bowl, les Jeux Olympiques, la NBA, le Festival Oceaga et plusieurs autres événements grandioses se déroulant sur les 5 continents. Les montagnes russes avec sa carrière en affaires ont continué quand du jour au lendemain, les revenus de son entreprise se sont quasiment tous évaporés quand la COVID-19 a frappé nos vies de plein fouet. Résilient, il a décidé d'être agressif pendant que les autres ne l'étaient pas, ce qui lui a permis à lui et son entreprise d'être des joueurs importants dans le marché événementiel qui risque d'être en surdemande dans la prochaine année. Sans plus attendre, ma discussion excessivement fascinante avec Dominique Gagnon. Dominique Gagnon, tu es le CEO et cofondateur de l'entreprise Connect & Go, une entreprise de bracelets connectés qui se positionne comme le leader mondial dans sa catégorie. En plus de Connect & Go, tu possèdes un carnet de route assez rempli en ayant fondé ta première entreprise à 14 ans, que tu as vendu quelques années plus tard pour ensuite fonder Piranha, une agence que tu as par la suite vendue à Équation Humaine en 2014. Dominique Gagnon, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui.
Ça me fait super plaisir de parler d'hypercroissance après 2 années de COVID. Ça fait du bien.
Effectivement. Bon, on va en parler un petit peu plus tard de ce qui s'est déroulé avec Connecting Go, l'entreprise que tu gères présentement. Mais Dominique, j'aimerais revenir un petit peu. Donc, tu as 34 ans maintenant. Je l'ai dit un petit peu plus tôt, tu as une carrière entrepreneuriale déjà assez chargée avec plusieurs projets d'envergure à ton actif. J'ai cru voir en faisant mes recherches que ton amour pour le monde des affaires a commencé quand tu étais très jeune, où tu disais à tes professeurs, puis tu me corrigeras si je me trompe, que tu voulais devenir Bill Gates ou du moins que tu essayais d'y ressembler un petit peu. Peux-tu nous amener aujourd'hui à tes débuts en affaires afin de bien situer l'audience?
Ça a commencé effectivement très, très jeune. Il y avait un concours. Je viens du lac Saint-Jean, donc de Saint-Félicien, un petit village. Puis il y avait un concours organisé par le Club Optimiste qui s'appelait L'Art de s'exprimer. Puis on devait dire c'était quoi qu'on voulait faire dans la vie. T'sais, puis à cet âge-là, je pense que je devais avoir peut-être 8, 9, 10 ans. Tu veux être généralement médecin, pompier, police, t'sais, les classiques. Puis moi, justement, j'avais fait mon oral. Moi, je voulais pas être un métier, je voulais être quelqu'un. Fait que je portais un complet veston trop grand de mon père qui travaillait dans une banque. Puis justement, j'avais fait « Moi, je vais devenir Bill Gates ». C'était clair, net et précis. Je pense que dans le ventre de ma mère, j'ai commencé l'entrepreneurship. J'ai sûrement fait quelque chose dans son ventre parce que pour moi, c'était inné. Et pourtant, je viens d'une famille anti-entrepreneuriale pratiquement, où mon père travaillait dans une banque très scellée, la sécurité super importante pour lui, l'aspect routine, famille. Ma mère est maman à la maison, donc on avait aussi un revenu relativement modeste. Mon frère a fini policier. Puis il y avait moi, tu sais, un peu la typique là, de la famille qui avait ça dans le sang. Donc, j'ai pas été poussé dans l'entrepreneuriat, mais effectivement, dès l'âge de 8-9 ans, je savais que je voulais être entrepreneur. Et à 14 ans, j'ai fondé 2 compagnies. En fait, j'ai fondé une maison de disques et de production de spectacles dans le punk rock. Fait que j'ai organisé des artistes comme Pennywise, NOFX, Big Wig. Fait que je faisais des gros spectacles de punk. J'ai enregistré quelques artistes. Et en même temps, j'ai fondé Mediatek Communication, donc une compagnie de création de sites web. S'il y a certains geeks là, sur le podcast, c'était dans le temps de Web Expert 2000. Fait que, je faisais vraiment des sites là, où le défi, c'était que le frame du haut et le frame de gauche se touchent sans trop empiètent dessus. On était vraiment au début des internets. la révolution Flash, etc. Et je réussissais quand même à faire presque 150 000 de revenus à 14 ans en créant des sites web. Là, on vendait ça à peu près 8 000 $ dans le temps, un site web. Je partais en vélo et j'allais vendre ça.
T'étais au Saguenay-Lac-Saint-Jean, je crois, à ce moment-là. Puis, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde, bon, si on exclut un petit peu le volet événementiel, du moins dans les différents concerts que tu as organisés, tu as sensiblement toujours œuvré dans le domaine du web, des technologies. Qu'est-ce qui t'a poussé à être davantage dans ce secteur-là?
Je pense que je suis autodidacte, donc rapidement, malgré qu'on était relativement modeste, mon père travaillait dans une banque qui avait fait le prêt à la première compagnie d'Internet qui s'appelait Destination Internet. Je me rappelle encore, je me rappelle pas quel âge j'avais, mais je me rappelle des discussions avec mon père sur l'arrivée d'Internet. Tu sais, on avait une discussion à la table de dire l'Internet s'en vient, ça va être énorme. On était sur les BBS, là, fait que c'était vraiment très, 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 très early à ce moment-là. Et très rapidement, ben, j'ai appris à coder. Je me suis développé une passion aussi de ce côté-là. Donc, j'ai été pirate informatique. Donc, j'ai cloné pour un peu plus de 300 000 $ de carte de crédit à l'âge de 12 ans. En ligne, donc c'est aussi une des raisons qui fait que je suis devenu entrepreneur, c'est que mes parents étaient tannés que je fasse des mauvais coups. Mais ça a toujours été technologie, mais encore, je te dirais plus loin que ça, j'ai eu une maison de disques, une maison de production, et toutes mes compagnies faisaient de la technologie et de l'événementiel pratiquement. Donc les deux domaines, on dirait, sont un peu dans mon sang, puis ont toujours suivi dans tous les projets que j'ai été, et parfois même inconsciemment.
Ah, c'est intéressant, ça, c'est très, très... très fascinant tout ça. J'aimerais revenir un petit peu, donc, l'entreprise que tu as fondée à 14 ans qui bâtissait des sites web. J'écoutais dans un entretien récemment, tu disais que ultimement cette entreprise-là a été vendue, je crois, dans le coin de 70 000 $. Comment ça se déroule, une transaction à un si jeune âge? Est-ce que c'est les acquéreurs qui sont venus te voir? Est-ce que c'est toi qui cherchais peut-être une cible potentielle à léguer ton organisation?
J'avais besoin, j'avais 16 ans, comme j'ai dit, j'ai une famille relativement modeste et j'avais besoin d'argent pour aller à l'université. Donc, je réussissais à ramasser de l'argent quand même avec ma business. Je faisais du profit, mais la réalité, c'est que j'avais quand même 3 employés à temps plein. Des gars beaucoup plus vieux que moi qui travaillaient de jour pendant que j'étais à l'école. Donc, il en restait pas tant que ça. Et il y avait un compétiteur au Saguenay, Genetics, si je me rappelle bien que ça s'appelait, qui faisait des sites web un peu plus d'ampleur. Fait que, tu sais, moi, je faisais le zoo de Saint-Félicien, je faisais des sites de gîtes, le site de l'autodrome. Lui, il faisait des sites, parfois, partis politiques, des choses un petit peu plus grosses. Puis, en fait, je me suis dit, bon, moi, je continuerai pas nécessairement à faire des sites web, tu sais, à temps plein quand je vais quitter la région. Fait que je l'ai approché. C'est l'avantage de venir de la région. J'ai dit, regarde, j'ai tel client, j'ai tel contrat. Évidemment, j'avais des contrats de support, des contrats de maintien de contenu, de mise à jour de site web. Là, les gens payaient très cher avant pour... je faisais SCM Racing, c'est des courses de motoneige. Il fallait que je code dans un tableau. Tu sais, je mette les résultats des courses à toutes les semaines. Fait que ça ramenait des beaux revenus. Fait que, il a décidé d'acheter cash. Donc, repris les clients, repris les employés, etc. Transaction full cash, relativement simple. Donc, évidemment, là, j'avais pas une structure légale très, très complexe, etc. Mais c'est aussi la première fois que j'ai payé de l'impôt. Fait que, tu sais, c'était jeune un peu de commencer à payer de l'impôt. J'aurais aimé pas en payer. Puis c'était quand même une belle expérience de ce côté-là.
Est-ce qu'il y avait des exonérations de grand capital à ce moment-là ou c'était pas encore d'actualité?
Pas au courant, on les a pas appliquées. Tu sais, évidemment, tu prends le comptable du coin du lac. Tu sais pas trop comment ça marche. Fait que, je te dirais, j'ai pris l'argent, j'en ai bu la moitié, puis j'ai utilisé le reste pour aller à l'université. C'est réellement, tu sais, je dis toujours, faut pas faire de l'argent trop jeune. Ça a aussi été quelque chose que j'ai appris.
Ben là, tu m'aides dans ma transition parce que là, tu parles un petit peu de boisson, tu parles d'université, puis je faisais quelques lectures et j'ai cru comprendre que ton autre organisation par la suite s'est créée, s'est fondée autour d'une bière, je pense qu'avec certains de tes copains étudiants à l'université, où ce que vous avez décidé de lancer l'entreprise Piranha. Donc, peux-tu me parler un petit peu de cette genèse-là parce que l'entreprise... Je pense que malheureusement, elle a eu une fin qui n'était pas nécessairement celle espérée, mais elle a eu une belle croissance. Vous avez quand même travaillé avec des clients de renom. Peux-tu nous parler un petit peu de cet épisode-là dans ta vie?
Oui, ça a probablement été une des plus grosses hyper-croissances que j'ai vécues. Justement, c'est l'innovation, ça a toujours fait partie de mon sens. Tu sais, je donne des conférences, j'en parle, je suis obsédé par l'aspect de faire différemment, disrupter, déranger, c'est important pour moi. On était autour d'une bière au pub de l'Université Laval, on étudiait en com public. Et souvent, quand tu étudies en communication publique à Laval, merci à l'Université Laval, c'est les seuls qui m'ont accepté, mais j'ai quand même été refusé dans les 3 autres universités où je voulais aller. On était comme, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que définitivement, après 2 cours, je savais que je ne pouvais pas rester juste à l'école. T'sais, j'allais faire des niaiseries. Puis à ce moment-là, les Segway étaient sortis. Je sais pas si vous vous rappelez du Segway, un petit biporteur à 2 roues qui visait à révolutionner la mobilité urbaine. Moi, je trouvais ça vraiment cool. Un des plus gros problèmes, c'est que le fondateur de Segway est mort en Segway. Là. Ne faites pas ça. C'est pas une bonne promotion pour votre produit de mourir sur ce que vous avez créé. Mais j'ai acheté 4 Segway sur des cartes de crédit. Puis je me suis dit, on va en faire des véhicules publicitaires urbains. Donc, le but Piranha, on était vraiment dans ce qu'on appelait les médias tactiques. On avait comme créé une nouvelle catégorie. Et on a commencé en événementiel, donc on faisait du Segway. Donc, on a créé un panneau publicitaire qu'on mettait sur la machine et on faisait des festivals, le Festival d'été de Québec, on a fait les Jeux olympiques, plusieurs festivals où on faisait de l'échantillonnage. Donc, on payait grosso modo les FAQ de l'université et embarquait sur le Segway, faisait de la distribution. Ça a grossi très, très rapidement de ce côté-là, mais j'avais 4 Segway. Ça veut dire que je pouvais faire, mettons, 250$ fois 4 Segway fois le nombre d'heures des événements. Et rapidement, on sentait qu'on était maximisé. On avait développé des ballons au-dessus de la tête, quelques médias, mais je cherchais comment je pouvais aller plus loin. Puis mon plus gros client, c'était Bell Canada. C'était pour eux qu'on faisait à peu près tous les événements. Et c'était le début du marketing mobile. Donc en France, moi j'ai toujours regardé ce qui se fait à l'étranger. Ici, il y en avait très peu. Mais en France, il y avait une grosse tendance au marketing par texto, marketing par Bluetooth. Donc, c'était vraiment le temps des flip phones, d'envoyer des messages. Et on est devenu la première agence de marketing mobile au Canada et la plus grosse par la suite. Donc, l'aventure a commencé là. On était peut-être 15 employés à temps plein à ce moment-là, à une centaine de contractuels parce qu'on était en événementiel. Et on est passé de 15 à 70 dans les deux années suivantes. On a développé des campagnes, c'est nous qui avons fait des applications pour payer, par exemple, votre stationnement mobile, donc l'application Copilote à Québec, c'est nous qui avons fait des applications de Desjardins. On a fait le virage numérique du devoir, on a fait la stratégie digitale de Simons. Donc, ça a été très, 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 très vite, très, très gros, peut-être trop vite.
Puis, c'est ce que j'ai été capable de voir un petit peu par la suite. Je crois qu'à un certain point, tu t'es entouré et les gens qui ont été proches de toi, puis ça a été une bonne leçon d'affaires, puis je pense que tu vas pouvoir partager ça avec l'audience d'Hypercroissance aujourd'hui. Je pense que malheureusement, trop faire confiance peut se retourner contre toi des fois.
Ne pas connaître ses chiffres, c'est un des problèmes. Moi, j'étais à ce moment-là assez jeune, et le déclic est venu de l'école d'entrepreneurship de boxe. Justement, moi, j'ai toujours aimé être toujours en mode apprentissage, et je suis rentré, j'étais le plus jeune à l'école d'entrepreneurship de boxe. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est une école relativement élitiste, dans lequel, en fait, ça coûtait 70 000 $ dans le temps pour 2 ans. T'as pas de diplôme à la fin. Puis mes profs, c'est Alain Bouchard, t'avais Aldo Bensadoun, donc les plus grands entrepreneurs du Québec. Et il y avait un séjour qui s'appelait « Savoir se financer ». Et durant ce séjour-là, il disait « Un CEO qui s'occupe pas de ses finances, c'est pas un CEO ». Et pour moi, c'était comme manger une claque d'en face parce que moi, je m'occupais plus ou moins de mes finances parce que j'étais obsédé d'une chose. Est-ce qu'on grossit le chiffre d'affaires? Mon obsession, c'était si j'ai fait 200 000 le mois passé, je fais du 300 000 ce mois-ci. Donc, j'étais drogué à l'hypercroissance, si on peut l'appeler comme ça, mais j'avais malheureusement, je suivais un KPI, la croissance du top line. Donc, la croissance, la grosseur de la business. Le nombre d'employés top line, c'est ce que j'aimais. C'est-à-dire, on était 30 employés, 60, 70, ça, j'aimais ça, puis le chiffre. Les profits, je m'en foutais un peu, mais je voulais pas perdre d'argent. Mais tu sais, être kiff-kiff, pour moi, ça me satisfaisait très bien. Et le problème, évidemment, c'est que j'ai fini par découvrir, parce qu'après ce séjour-là, j'ai voulu m'impliquer dans les finances. Et c'est là que j'ai découvert que je m'étais fait détourner un peu plus d'1,4 million quand j'ai arrêté de compter de fonds, incluant l'aspect que les TPS TVQ n'avaient pas été payés depuis 8 mois. Donc, je me suis retrouvé, je dirais, de héros à zéro. La même année que je gagnais entrepreneur de l'année Desjardins, je tombais au compte spéciaux chez Desjardins.
Ça doit être une sacrée leçon tout ça, là, parce que par la suite, puis on va en parler un petit peu plus tard, des autres projets dans lesquels tu es impliqué, parce qu'il y en a plusieurs, il n'y a pas une seule organisation que tu opères. Là, j'imagine que par la suite, là, l'entrepreneur Dominique Gagnon, il les connaît ses chiffres, il les connaît ses marges de profit, il les connaît ses coûts d'exploitation.
Aujourd'hui, je suis obsédé par le data. Je reste que je fais confiance. C'est beaucoup de gens m'ont dit « Ah, t'es-tu devenu parano? » Sincèrement, je pense, tu sais, puis il y a deux philosophies. Il y a la philosophie « Les gens sont des bandits, puis je vais découvrir qu'ils sont bons. » Et la philosophie, les gens sont bons et je vais découvrir qu'ils sont des bandits. Aujourd'hui, j'ai créé des outils, entre autres des outils qui permettent de passer mes états financiers puis de voir s'il y a des ratios illogiques. Exemple, un voyage en France, je sais que ça coûte en moyenne 2 500. Donc, mon système que j'ai développé pour moi-même va analyser si quelqu'un a fait un voyage à 6 000. Ça va me le flaguer, je vais vérifier. J'ai découvert des micro-fraudes dans différentes entreprises où j'ai été en utilisant ces systèmes-là. Je fais encore confiance. T'sais, je ne veux pas tomber dans la paranoïa, mais je connais mes chiffres, je connais mes ratios. Évidemment, mes états financiers, tu sais, je suis plus sur des avis aux lecteurs comme j'étais pratiquement à ce moment-là. Je suis sur des audités. Donc, j'ai aussi une garantie de mes partenaires financiers d'être capable d'avoir du bon data. Et oui, je suis très... Avant, je parlais jamais de finance pratiquement. Tu sais, c'était croissance. Aujourd'hui, dans toutes les organisations où je suis impliqué, un des points très importants pour moi, c'est les finances. Parce que c'est ce qui fait que tu vas être capable de scaler, que tu vas être capable d'avoir de l'hypercroissance.
Tu as tout de même vendu l'entreprise à Équation Humaine en 2014, puis tu disais dans une conférence, et j'ai trouvé ça assez intéressant, que des fois, on peut voir ça comme un accomplissement incroyable de vendre son entreprise, mais plus souvent qu'autrement, quand on vend son entreprise, on peut, en tant qu'entrepreneur, perdre un peu son identité. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont même des fois avoir des dépressions, vivre beaucoup d'anxiété suite à la suite d'une vente d'entreprise. Est-ce que ça t'est arrivé? Est-ce que tu as senti que quand Piranha a été acquis par Équation Humaine en 2014, tu as perdu un petit peu ce qui te définissait en tant qu'être humain, en tant que personne?
Évidemment, tu sais, j'ai vendu parce que j'étais en difficulté. Donc, j'ai pas vendu, tu sais, quand j'étais dans l'orchestique, je venais de vivre la fraude, j'avais réussi à redresser avec des investisseurs la compagnie, mais tu sais, on était peut-être passé de 70 employés à 25. Le business, tu sais, était beaucoup plus fragile. Fait que, tu sais, c'est différent de vendre à ce moment-là. Puis, un des trucs que je dis dans ma conférence, ne prenez jamais de décision quand vous êtes fatigué. Ça, c'est un gros apprentissage que j'ai eu. Aujourd'hui, si je suis épuisé, je ne prends aucune décision. Et des fois, là, tu sais, il y a des gens qui te poussent à dire non, non, tu décides aujourd'hui. Non, je suis pas en forme, je prends pas de décision. Parce que là, j'étais fatigué. Selon moi, j'étais en dépression ou en burn-out. On n'en parle pas beaucoup comme entrepreneur parce qu'on se prend pour des super-héros, là, mais j'étais vraiment au bout du rouleau. Et en fait, j'avais 3 offres d'achat. 2 offres qui tenaient vraiment la route, puis une offre qui était exceptionnelle. C'est exceptionnel, mais c'est quand on dit trop beau pour être vrai, comme OK, on va te donner bien de l'argent, mais pas tout de suite. Tu vas devenir actionnaire, on va fusionner, blablabla. Cette transaction-là est très mal finie, finie en litige. Je rentrais pas dans les détails, mais très, très mal fini. J'ai gagné en cours, mais ce qu'on apprend quand on gagne en cours aussi, c'est que si la compagnie qui a gagné fait faillite, tu vois rien. Même s'il devait 1 million, 2 millions, 5 millions, grosso modo, cette transaction-là me rapportait 0, me fait dépenser des centaines de milliers de dollars en avocat quand j'avais déjà plus d'argent. Donc, ça a été traumatisant, je te dirais, puis un petit peu difficile. Et même avant que ça vire mal, l'article des affaires sur la transaction, imagine-toi, ça s'appelait « Équation humaine » Aval Piranha. Juste l'image, tu sais, un piranha généralement, tu sais, pas pour rien que je m'appelais Piranha, j'aimais bien mordre les autres, puis c'est moi qui prends la place. C'était quand même, c'est même pour mon équipe là, j'avais reçu des messages de dire, ouais. Fait que oui, je te dirais vendre, tu sais, en tech, c'est quelque chose. Là, j'étais dans le service à ce moment-là, mais c'est souvent beaucoup plus beau de l'extérieur, c'est souvent très romancé. Il y a beaucoup très peu d'entreprises se vendent quand ils vont bien. Qui est malheureux. Tu sais, la plupart des entreprises, c'est des ventes de feu, c'est des ventes de difficultés, c'est des ventes d'entrepreneurs fatigués. Et dans mon cas, cet exit-là, qui était le deuxième, n'a pas du tout été une belle expérience, mais a été le meilleur apprentissage, je te dirais, que j'ai eu dans ma vie d'entrepreneur.
Puis on va en parler par la suite parce que maintenant, tu diriges une organisation Connect & Go, puis bon, c'est sûr et certain, au moment qu'on enregistre le podcast 14 juillet 2021, tu as dû avoir une année rocambolesque et on va en discuter ensemble de tout ça parce que faut le dire à l'audience qui nous écoute aujourd'hui, tu œuvres dans le volet événementiel. Mais si tu avais à refaire les choses aujourd'hui, j'aimerais revenir un petit peu avec la transaction de Piranha. Comment tu le ferais différemment? Qu'est-ce que tu dirais aux gens aujourd'hui qui sont face à une situation où est-ce que ils sont proches de peut-être vendre leur entreprise dans un contexte peut-être positif ou voire négatif? Qu'est-ce qu'un entrepreneur à ce moment-là doit faire pour éviter un enjeu qui a quand même été assez important que tu as vécu là?
Première chose, tu sais, je l'ai dit, ne pas prendre de décision quand on est épuisé. On devrait jamais être dans l'urgence de dire faut que ça se fasse demain. Puis évidemment, en transaction, moi je fais du M&A, on va annoncer 2 nouvelles transactions dans la prochaine. Tu sais, moi je le joue aussi à l'envers. Là. Tu sais, je vais mettre de la pression souvent sur les gens que je vais acquérir, etc. L'autre chose que j'ai appris, puis ça, c'est un peu contre les avocats, et t'as bien beau avoir le meilleur deal sur papier. T'sais, dans ce dossier-là, là, j'avais un deal de feu, une débenture convertible, des leviers. S'il y a un litige, partez avec l'idée, si t'as le meilleur contrat, la meilleure offre, si t'as pas été payé upfront, ben, grosso modo, un litige, avant de voir un juge, c'est 2 ans et demi, 150 000 $ de tes poches. Donc, la plupart des gens qui ont un litige arrivent même pas au bout. Sont même pas capables de se rendre en cours. C'est ce qui fait que, grosso modo, que presque tout se règle de manière un peu loufoque. Puis que moi, ça me dérange énormément parce que je trouve que le système avantage les bandits. Mais tu sais, moi, c'est sûr qu'il y aurait de l'argent upfront. Je me sécuriserais upfront. Tu sais, c'est super important parce qu'il y a beaucoup de deals que tu te fais promettre de dire, regarde, je vais te donner des earn-out. Les aurais pas vu earn-out. Tu sais, partez avec l'idée, là, mettez 0. Qu'est-ce que t'en poches aujourd'hui? C'est qu'est-ce que t'as pour ta compagnie? Puis t'es-tu confortable avec ça? Il y a 2 choses. Il y a ce que tu vas mettre comme argent dans tes poches. Puis il y a pourquoi tu vends. Tu vends-tu parce que t'es fatigué? Tu vends-tu parce que t'es écœuré? Tu vas-tu être content si l'acquéreur, il fout ta compagnie à terre? Il y a beaucoup de philosophie derrière ça. Une entreprise, je suis impliqué en ce moment, justement, qui est dans un processus où les fondatrices disaient, bon, on serait prête à vendre. Il y avait un acheteur, mais tu sais, rapidement, on voyait qu'il y avait un conflit de valeur. Puis il y a plein de leviers. Tu sais, il y a du management buyout. Là, on regarde pour peut-être que les employés mettent de l'argent pour être capable d'en prendre une partie puis de les sécuriser. On peut être très créatif pour atteindre les objectifs de l'entrepreneur qui est souvent un besoin de sécurité.
Puis bon, parallèlement à ce litige-là, à la création et la transaction plus tard, la vente de Piranha, t'as lancé en 2012, si je crois bien, avec un partenaire, Connect & Go, qui est une entreprise, comme on l'a dit plus haut, qui est un leader mondial dans la conception de bracelets pour des événements d'envergure mondiaux. Là, vous travaillez, ou plutôt vous avez travaillé avec le Super Bowl, le Festival d'été de Québec, le Festival Oceaga à Montréal et le Sonic, je crois bien. Vous travaillez également avec des organisations de renom comme les Maple Leafs de Toronto. Vous avez des contrats avec la NBA. Vous travaillez avec des géants mondiaux.
On a fait les Jeux olympiques. Il manque les Jeux olympiques dans tout ça, mais on a fait les Jeux olympiques de Pyeongchang, qui était quand même le X important dans l'histoire.
Donc, les Jeux olympiques, en plus de ça, parle-nous un petit peu comment qu'un entrepreneur arrive à un moment où est-ce que c'est plus compliqué parce que l'entreprise a été fondée en 2012, tu as vendu Piranha en 2014. Donc, tu sais, on peut comprendre que ça s'est fait pas mal tout en même temps. Peut-être à un moment que c'était même plus compliqué pour toi au niveau affaires. Comment tu as lancé cette organisation-là? Et la deuxième question que je te posais par la suite, comment tu crées des partenariats d'envergure avec des géants mondiaux?
Ce que j'ai aimé de l'aventure Connect & Go puis que j'ai aimé de l'aventure en agence, moi, j'avais quand même toujours le désir de créer du produit. Et l'aspect produit est important pour moi. Je m'ennuie aujourd'hui un peu de l'agence parce que c'était une machine à idées, une machine à expérimenter. Mais quand j'étais chez Piranha, comme CEO, j'ai parti énormément de ventures parallèles. Entre autres, je suis devenu investisseur actionnaire du Salon des vins de Québec, Tuxedo Expérience Vinicole. C'était en échange d'heures de prod de Piranha. J'avais créé Mozo Technologies, une des premières technologies qui permettait de digitaliser des magazines sur iPad. On a quand même fait plus de 150 magazines, beaucoup en France, entre autres, avec cette solution-là. Et Connect & Go, c'était la même chose. J'avais une agence qui s'appelait Bleu, Blanc, Rouge, qui existe toujours, qui m'avait appelé, Simon Cazelet. Il m'avait dit, on a un mandat pour l'impact, puis on aimerait ça faire une clé du SAD. Puis quand on la scanne, ça dit « Bienvenue chez vous, Dominique ». Puis moi, je suis le classique entrepreneur, puis il y a des bons et des mauvais côtés à ça, qui dit oui, puis qui se débrouille après. Fait que, t'es-tu capable de faire ça? Ah oui, aucune maudite idée comment. J'ai googlé RFID, ben, je me disais que c'était une des technologies intéressantes pour ça, et j'ai trouvé mon associé qui, lui, mettait des puces dans les camions pour traquer la fraîcheur des produits dans la compagnie de son beau-père de transport qui s'appelait Liaison Kenny West. Je m'en vais voir Anthony. Rapidement, Anthony, un peu comme moi, il m'a bluffé. À la base, c'est un écrivain de pièces de théâtre, mon associé. Fait que je suis rentré chez Liaison Kenny West. Il y avait faké qu'il y avait plein d'employés. Fait que tous les employés de la compagnie de transport, ils faisaient semblant que c'était des employés de la compagnie. Ils s'étaient mis une vignette de stationnement. Sincèrement, il m'a fait un show de boucan magnifique. Puis j'ai fait, ils ont l'air bons. Fait qu'on a fait le stade Saputo ensemble. Et je me rappellerai toujours, je suis rentré dans son bureau. Je dis, Anthony, ça va s'appeler Connect & Go, puis on va dominer le monde. Il m'a comme regardé un peu bizarre, parce qu'on se connaissait pas beaucoup. Puis il a dit, OK. Puis c'est le même logo depuis le début. Je savais que ça allait s'appeler Connect & Go. Je savais ce qu'on allait faire. Donc, ça a été l'histoire. Puis Connect & Go m'a sauvé parce que quand ça allait très mal dans Piranha, financièrement, tu sais, c'était des huissiers qui venaient à la maison. C'était très, très difficile. Je devais à peu près, là, si je me rappelle bien, 600-700 000 à Revenu Québec. Parce qu'évidemment, la personne qui m'a fraudé n'était pas administratrice. Donc, les huissiers viennent cogner à la maison. T'as tant de jours pour payer des sommes astronomiques que j'avais pas. Ben, j'ai eu la chance d'avoir un associé compréhensif qui roulait la business pendant que j'étais chez Piranha. Fait que c'est vraiment Anthony qui a fait les 6 premières années. Moi, j'ai repris le poste de CEO, ça va faire 3 ans à peu près. Le reliant de ronde de financement, c'est souvent ce qui arrive quand il y a des investisseurs qui arrivent. Parfois, ils veulent un changement de cap, changement de leadership. Mais ça m'a beaucoup aidé. Anthony a toujours été compréhensif, vivait ça. Il me versait de l'argent, fait que ça me donnait un coup de pouce aussi de ce côté-là. Puis lui, il roulait la business de son côté. Moi, j'étais l'entremetteur, donc je ramenais de la business. Je faisais dans ces années-là, là, rien d'autre.
Tu as fait ça pendant 6 ans de temps, mais déjà là, à ce moment-là, il y a des gros deals, pardonnez-moi l'anglicisme, qui ont été faits à ce moment-là. Donc, même si tu es un entremetteur à temps partiel, tu as quand même été capable de trouver des ententes qui ont été assez intéressantes pour Connect & Go.
Les 2 premières années, j'étais pas là, en ce sens où j'étais zéro là, tu sais, parce que j'étais encore chez Piranha CEO. Quand j'ai quitté Piranha, j'ai tombé temps plein chez Connect & Go comme co-founder, mais principalement développement des affaires. Et c'est là vraiment aussi qu'on a commencé à scaler la business. Fait qu'on est allé chercher, entre autres, le Super Bowl, qu'on est allé chercher par la suite. On a fait, tu sais, on peut parler de Ready Player One, le film de Spielberg à South by Southwest. On a fait Twitter. On a fait à peu près, sincèrement, toutes les grosses marques. On s'est envolé en Arabie Saoudite, travailler pour le prince héritier. Donc, le plus gros événement financier, il y avait Elon Musk qui portait notre technologie, Richard Branson, Bill Gates, en Arabie Saoudite pour revenir par les Jeux Olympiques. Donc oui, on a fait, sincèrement, on pense écrire un livre éventuellement parce qu'on a vécu des choses. T'sais, je pourrais raconter des histoires. On a fait Fire Festival. Sûrement, vous connaissez Fire Festival. T'sais, dans le documentaire, quand tu vois le bracelet, c'est le nôtre. On était on-site. T'sais, on a vu la sandwich au fromage. Puis on était vraiment on-site de Fire. On a fait les plus gros événements à travers la planète. Le tour du monde plus d'une fois. Fait que c'est sûr et certain que ça a été une aventure. Puis ça a été vraiment un peu du hasard. Moi, j'ai toujours été très, très fort en PR, en relations publiques. De faire parler de nous, ça a toujours été quelque chose que j'ai beaucoup fait dans tous mes business. Puis sincèrement, tout le monde m'a dit « Comment t'as fait pour gagner le Super Bowl? » C'est un peu plate, ils m'ont appelé. Et c'est juste, ils m'ont appelé parce que on avait été nommé dans un magazine parmi les deux personnes les plus innovantes au monde du milieu du divertissement, moi et Anthony. Le magazine s'appelle Biz Bash. Ils avaient vu l'article. Ils nous appellent. On fait le Super Bowl. Qui va au Super Bowl? Les Jeux Olympiques vont au Super Bowl parce qu'ils veulent voir les fournisseurs. Donc là, t'as les Jeux Olympiques qui t'appellent. Puis ça déboule assez rapidement. C'est un gros secteur, le divertissement. Et Oceaga, on a eu la chance d'avoir Evenco, mais Oceaga est une vitrine aussi exceptionnelle pour nous. Ça a été notre deuxième ou troisième client. Et tous les organisateurs de festivals pratiquement viennent à Oceaga. Ça, on le sait pas, là, mais Oceaga est vraiment un des festivals les plus appréciés en Amérique du Nord. Et pour nous, ça a été une autre belle vitrine.
C'est intéressant. Donc, littéralement, de faire parler de soi encore une fois, t'as donné un contrat qui par la suite, tout a déboulé derrière pour tes comptes d'envergure, comme on l'a dit plus tôt.
Ouais, après, ça a été un feu roulant, je dirais, sincèrement. Des fois, on oublie même tout ce qu'on a fait. Là, on a travaillé pour Visa. On a vécu des moments, de faire South by Southwest. C'était super, mais de faire, on était quand même le système de paiement des Olympiques à Pyeongchang. On s'en va à Beijing l'année prochaine. On aurait dû être à Tokyo cette année, mais on va s'en aller à Beijing. On a fait deux fois le Super Bowl. Donc, à deux reprises, on a développé des tatouages où tu payais avec ton épiderme pour Visa au Super Bowl. Fait qu'on a fait des affaires vraiment funky, vraiment le fun, puis qui nous ont amené à un pivot. Puis c'est là où moi je suis rentré, c'est qu'on faisait de l'événementiel. Puis Fire Festival, ça a été un déclic de dire l'événementiel, c'est pas fiable. T'sais, en ce sens où la plupart des gens, il y a beaucoup de mauvaises créances. C'est un festival qui a de l'appui, ils vont déclarer faillite, ils vont pas te payer. Fait que c'est un milieu difficile, un milieu aussi qui exigeait beaucoup de nos employés. T'sais, tu travailles jour et nuit sur les sites. Et c'est là qu'on s'est dit, ben, on va déployer notre technologie dans ce qu'on appelle des installations permanentes. Donc, parc d'attractions, zoo, parc aquatique, parc familiaux. Et là, ça a vraiment été un pivot de passer de service, parce que on avait un produit chez Connect & Go en événementiel, mais il y avait beaucoup de services autour. C'est déploiement, installer des gates, des techniciens à produit. Donc, un modèle d'affaires où aujourd'hui, à peu près 60% de nos revenus, c'est des revenus de billetterie. Donc, même si on est reconnu pour nos bracelets, le gros de nos revenus sont des revenus de billetterie.
Intéressant. Puis bon, il y a eu ces beaux mandats-là, cette belle histoire qui continue d'ailleurs, mais comme beaucoup d'entreprises dans le secteur événementiel, tu as eu en mars 2020 ton 2 minutes. Donc, du jour au lendemain, ta croissance phénoménale, parce que j'avais lu à ce moment-là, 2020 était l'année que vous étiez supposé aller tout chercher, aller prendre les parts de marché qui vous manquaient pour vraiment vous installer comme le joueur indétrônable. Mais on sait ce qui est arrivé, le secteur événementiel, le secteur de la restauration, le domaine sportif ont été grandement impactés par tout ce qui s'est déroulé. Mais vous, vous avez eu peut-être votre 2 minutes au départ, mais vous n'êtes pas resté défensif. Au contraire, j'aimerais que tu me parles de ce qui s'est déroulé parce que c'est fascinant. Tu me disais dans un entretien récemment que tes compétiteurs, eux, ont eu un petit peu plus peur et ils se sont mis à vendre des masques. Au contraire, t'as accéléré.
Exact. Je suis peut-être un peu fou, mais puis nous, notre 2 minutes, il est arrivé plus tôt. Parce qu'on avait un contrat en janvier avec la PGA. Donc, un beau contrat avec la PGA qu'on avait été content. C'était la première fois qu'on allait faire la PGA. Et on n'a pas reçu nos équipements en temps de la Chine parce que le COVID était parti là-bas. Donc, on a perdu le contrat de la PGA parce qu'on n'était pas capable de le livrer. Je me rappelle, à ce moment-là, tout notre thinking, c'était pas le COVID va-t-il arriver au Canada, c'était faut trouver des partenaires qui sont pas en Chine. T'sais, on était quand même, Trump appelait pas ça le virus chinois pour rien. T'sais, à un certain moment, on était quand même, c'est un truc qui va rester là-bas. Puis là, ça va être super compliqué d'avoir des bracelets et de l'équipement. Fait qu'on était beaucoup plus de dire « Ah, on regarde-tu l'Inde, on regarde où? » Puis ça déboulait à une vitesse phénoménale. Moi, j'étais en France, j'ai pogné le COVID. Encore une fois, en France, j'allais signer un gros mandat Compagnie des Alpes, un gros joueur. Personne ne voulait me serrer à la main. Je l'ai trouvé un peu intense de pas vouloir me serrer à la main. On était déjà dans un peu du scepticisme. Puis quand on est revenu, ça a pété, comme on peut dire. Il y a eu 2 semaines difficile. J'ai fait un article dans la presse où je parlais en cours de santé mentale. Là, j'ai bu une demi-bouteille de scotch le soir. Je pleurais dans l'auto en m'en venant au bureau. Fait que, il y a eu des moments difficiles parce que j'ai mis à pied chaque semaine 15-20 personnes en Zoom. T'sais, pour moi, un entrepreneur, ça devrait avoir une paire de couilles pour dire quand tu vires quelqu'un, c'est physique, c'est une discussion humaine. Là, c'était un après l'autre parce que on perdait tous les contrats. Puis on venait de compléter deux acquisitions, une ronde de financement de 6 millions. Fait que tu sais, c'était comme, OK, là, je viens de faire une acquisition de 1,5 million à peu près. Faut que je vire tous les employés de l'acquisition que je viens de faire, donc je perds tout le savoir. J'ai perdu ce 1,5 million-là, mais c'est à la poubelle. Tes investisseurs te demandent des appels à tous les jours. Parce qu'ils viennent de mettre 6 millions dans ta compagnie, il y a ça à peu près 6 mois, puis là, on fait, wow, OK, on fait quoi? Mais rapidement, ça, c'est, je lève le chapeau aussi à mon conseil d'administration, on s'est dit que la meilleure défensive, c'était l'attaque. Tu sais, mon conseil, quand j'étais comme, on fait quoi? André, qui est l'ancien président de CIBC Capital Markets, qui est chairman sur mon board, Dominique, il dit, il y a deux places où je veux pas que tu coupes. Je veux pas que tu coupes dans les ventes, puis je veux pas que tu coupes dans le produit. Parce qu'il dit, je pense que c'est le moment de rester avec nos clients. Je pense que c'est le moment de rester en discussion. Je pense que c'est le moment de se positionner. Il y a eu des deals médias, là. On s'est payé la une de In Park Magazine à 10% du prix. On a fait un paquet de super deals médias. On a commencé à faire beaucoup de groupes. On a créé des groupes de discussion avec des gens de l'industrie sur des solutions COVID, comment on pouvait les aider. Puis ça a été ultra payant de faire ça. On a aussi commencé à appeler tous nos concurrents. T'sais, on était comme, on regarde notre cash flow, ils doivent avoir le même que nous autres. Êtes-vous à vendre? Fait qu'on s'est positionné comme un acheteur. On complète deux transactions qui vont être annoncées, je crois, d'ici une à deux semaines maximum. On n'aurait pas pu faire sans le COVID. Ça a été impossible parce que c'est justement deux transactions d'entrepreneurs qui ont été un peu plus fatigués, qui l'ont eu un petit peu plus tough, qui n'avaient pas d'investisseurs nécessairement, qui là disent OK, il faut se joindre à un groupe. Donc, on a vraiment contre-attaqué. On a embauché un VP Sales qui venait de chez Accesso, mon plus gros concurrent, tu sais, salaire d'un 6 chiffres en plein COVID. Fait que c'était fou, un peu. On a brûlé du cash. On va se le dire transparent, merci aux investisseurs, parce qu'on a brûlé de l'argent, mais on est en très bonne position. Un grand groupe de parcs d'attractions, parmi les trois plus grands groupes au monde, viennent de nous appeler pour remplacer un de nos concurrents, un de nos gros concurrents. On est à peu près 50 fois plus petit que ce concurrent-là qui est en bourse, qui vaut plus 1 milliard. Et même d'être appelé, on y croyait pas, on pensait que c'était une joke au début. Puis c'est entre autres grâce à ça, le contrat en ce moment, tu sais, qu'on discute, on parle d'un contrat de plus de 10 millions de pounds, c'est énorme. C'est entre autres parce que tout le monde a fait, pendant que ça allait mal, vous étiez là, puis vous avez innové. On a développé en termes de produits. Ce qu'on a réussi à faire, selon moi, en termes normal, aurait pris 5 ans. On l'a fait en 18 mois, parce que personne nous dérangeait. Mes devs, là, tripaient eux autres, parce que pour la première fois, ils étaient en télétravail, puis il n'y avait pas de mandat. Parce que généralement, je connecte Tango aux 5 minutes, il y a quelqu'un qui arrive, qui disait comme, hey, j'ai un client, il y a un feature. Là, ils ont juste gonné pendant 18 mois. Fait qu'on a développé une plateforme que certains de mes concurrents essayent de faire depuis 5 à 6 ans en 18 mois. Donc, on a créé de la valeur.
Puis ça, ça doit donner, de un, pour arriver à ça, tu dois, j'imagine, te tenir devant tes investisseurs. Parce que là, c'est d'arriver puis de le dire, regardez, on va, dans un contexte comme ça, on va prendre cette approche-là, on va prendre vos sous, puis je peux pas vous garantir un retour sur investissement immédiat. Du moins, c'est sûr qu'il n'y en aura pas de retour immédiat, mais il n'y a pas d'autre option si on veut être un joueur important en 2022. Parce que on le voit en ce moment, le volet événementiel, tout ce qui a été perdu dans la dernière année va être redoublé l'année prochaine, là.
Le marché est fou. Le marché est complètement fou en ce moment. Les perspectives, les actions des compagnies en bourse dans le secteur sont super bons. Tu sais, de se tenir, je te dirais que c'était, ce qui était le fun, c'est d'avoir un conseil d'administration qui est dans le même mindset que toi. Tu sais, fait que j'aurais pu avoir des investisseurs plus frileux. Là, ça aurait été plus difficile. J'ai des investisseurs qui sont relativement agressifs. Donc, qui ont envie de conquérir, qui ont un peu ce même côté-là. On a un super bon fit avec nos investisseurs. Donc, cette relation-là a aidé. Mais c'est sûr et certain que, tu sais, il y a eu des réflexions. Un moment donné, c'était le fun de dire on embauche, on dépense. Et tu sais, on était après 6 mois, on était comme ça va-tu durer encore 6 mois, puis après un autre 6 mois, on va-tu encore? Puis, tu sais, retour sur investissement, je te dirais, les investisseurs, tu sais, avaient investi autour d'une valorisation de 17 millions. On a refusé une offre autour de 30 millions dernièrement, en plein COVID, parce qu'on a créé énormément de valeur. Parce qu'il faut pas oublier, avant la pandémie, je faisais des revenus événementiels. Aujourd'hui, je fais des revenus récurrents. C'est le Zoo de Granby, si vous y allez, le Super Aqua Club, si vous y allez, le Mega Park, si vous y allez. Là, je parle juste de deal au Québec. Je touche 25 cents, 30 cents, 1 piastre, 3 piastres du billet vendu, donc de l'expérience. Ce qui veut dire que pendant qu'on se parle, j'ai probablement fait 1 000, 2 000, 3 000 $ de revenus. Donc, On est rendu dans la game des revenus récurrents, dans la game du transactionnel. Et ces revenus-là sont valorisés entre 10 et 14 fois sur le marché en ce moment, versus les revenus passés de Connect & Go qui étaient valorisés 14 fois.
C'est une évolution exceptionnelle du modèle d'affaires, ça, parce que là, automatiquement, c'est un modèle qui est beaucoup plus facilement implantable un petit peu partout, là. Parce que j'imagine, puis corrige-moi si je me trompe, tu étais dans le service plutôt avec Piranha, tu es dans le produit aujourd'hui avec Connect & Go, mais au départ, tu étais quand même dans le service parce que avec Connect & Go, tu devais changer. Tu sais, c'est des projets qui sont différents l'un de l'autre. Donc, tu peux pas juste prendre un produit, le mettre dans un événement puis espérer que tout fonctionne. Il y a beaucoup de changements, de manipulations que tu dois faire.
Ben, un événement, tu sais, c'est, t'as besoin, tu sais, un Oshiaga, là, ça peut être 20 personnes sur site, tu sais, qui installent les scanners mobiles, il manque de batterie, t'as des runners qui courent, qui vont les chercher. C'est très, je te dirais, 70% service, 30% produit, parce qu'on avait la plateforme de contrôle d'accès, on avait une technologie RFID, mais autour de ça, très, très service. Aujourd'hui, je fais des revenus avec rien. Ça veut dire que, tu sais, le zoo, il roule depuis peut-être 7 à 8 mois. J'ai, à part mon support, qui est une personne, il y a personne qui travaille sur le zoo. Il y a rien, c'est installé, c'est déployé, ça roule. Pareil pour tous nos parcs. C'est un pivot complet. Ça a aussi amené le changement de direction, changement d'équipe. Il n'y a plus d'anciens. Chez Connect & Go, tous les gens qui étaient de la période événementielle ne travaillent plus chez nous. On a professionnalisé énormément, embauché un CEO senior. On est en train d'embaucher une VP sales là, qui va coûter 200-300 000 $ par année aux États-Unis pour développer le marché. On continue de bouger nos pions, mais on a changé, grosso modo, d'industrie. On reste dans le divertissement. Pour moi, c'est important parce que c'est le plus beau milieu du monde. Mais on fait beaucoup, beaucoup moins d'événementiels. On continue d'en faire, mais c'est rendu mineur dans nos opérations.
Ah, c'est intéressant ça. Ben, ça fait beaucoup plus de sens. Puis il y a beaucoup plus de pérennité à ça sur le moyen long terme. Et parlant de moyen long terme, donc là, on le dit, on est en période qu'on est quasiment en train de sortir de la COVID-19. On touche du bois, on se croise les doigts. À quoi ressemble l'avenir là de Connect & Go pour 2022, pour les prochaines années?
2022 va être fou. Selon nos prévisions, 2022, on va dépasser les années pré-COVID facilement sur du revenu récurrent, fait que sur du solide, du revenu récurrent. Donc, tu sais, on a fait une phase d'hyper-croissance, on a fait une phase d'hyper-décroissance, tu sais, passer de plusieurs millions de chiffres d'affaires à 1 million à peu près en période de COVID. On a fait 900 000 ou 1 million. Fait qu'on a brûlé des millions aussi, évidemment, en termes d'investissement. Mais aujourd'hui, on veut se positionner comme leader au monde dans le domaine des parcs d'attractions, qui est plus un cycle de vente plus long, plus complexe aussi. C'est un plus gros système. On joue avec l'argent du monde. T'sais, on a des systèmes de paiement dans les parcs d'attractions, système de billetterie, etc., cybersécurité et tout. C'est plus gros. On est vraiment sur une pente, je te dirais, un fast track, où on pense être capable de ramener la compagnie dans les deux chiffres de millions très rapidement. On fait des embauches stratégiques en ce moment aussi, entre autres aux États-Unis où on garde deux acquisitions, puis on veut continuer de se positionner comme un joueur clé dans le M&A. Est-ce qu'on va être vendu un jour? Est-ce qu'on va rentrer en bourse? Je sais pas. Mais c'est sûr et certain qu'on a beaucoup d'ambition pour les prochaines années. J'avais un peu perdu mon énergie pendant quelques mois. En ce moment, sincèrement, j'ai recommencé à avoir du fun. On voit de la croissance, on fait du deal-making, il y a des choses qui se passent. Je pense que si la COVID nous sacle la paix en 2022, ça va être la meilleure année de notre
vie. Ben, je suis content de l'entendre. Puis félicitations pour avoir tenu pendant cette année qui devait être complètement folle, décourageante à un certain point. Ben, vous, au contraire, vous avez mis l'épaule à la roue et vous avez passé au travers. Je terminerai, Dominique, avec des petites questions personnelles que j'aime beaucoup. C'est intéressant parce que toi, tu as essayé d'appliquer à certaines écoles, à l'université. Ils t'ont refusé. Puis t'es revenu, t'as appliqué, mais là, cette fois-ci, pas comme étudiant, t'es devenu professeur dans ces écoles-là. Et je fais un petit peu une transition, je voudrais savoir, comment tu t'éduques? Est-ce que t'es quelqu'un qui va lire beaucoup? Est-ce que tu vas écouter? Est-ce que t'as des mentors? Ça ressemble à quoi, ça, chez toi?
Toutes ces réponses. Donc, j'ai toujours eu des mentors. Pas les mêmes, ils ont évolué, mais j'ai toujours eu des mentors, presque depuis que j'ai 16 ans. J'ai toujours eu des gens à qui, justement, je peux échanger, partager. On a créé, entre autres, chez Connect & Go, 100% des employés ont un mentor. C'est une des initiatives culture et talent les plus solides qu'on a mis en place, là, des mentors de qualité. T'sais, on a un vendeur chez nous, il y a le VP Sales chez D-Box. On a vraiment créé un réseau de mentorat externe, structuré. On a une chef mentor qui est Diane Lafontaine, la VP communication marketing du fonds de la FTQ, qui gère tout ça. Donc, ça, je suis assez fier de cette initiative-là, Culture et Talent, parce que je crois énormément au mentorat. Pas parce que t'es CEO que t'en as pas besoin. C'est pas parce que t'as 50 ans que t'en as pas besoin. Moi, j'ai mentoré un de mes mentors. C'était drôle parce qu'il retournait en tech. Il avait été, moi, il était dans le domaine du gambling. Puis après, il est rentré, il est retourné en tech. Il a été mon mentor pendant des années. Il avait vendu une compagnie de plus de 100 millions. Puis, tu sais, il m'a dit, j'ai besoin de toi, parce qu'il dit, là, j'ai besoin de comprendre c'est quoi un full stack, j'ai besoin de comprendre le vocabulaire, j'ai besoin de me rentrer dedans, fait que j'ai mentoré mon mentor. Fait que je pense qu'il y a des relations qui bougent. J'écoute un à deux podcasts par semaine, je lis un à deux livres par semaine, soit livre audio ou lecture. J'ai la chance de souffrir d'un TDAH. Moi, je vois ça comme une chance et non pas comme un problème. Donc, je dors 4 heures par nuit, ce qui me donne plus de temps de faire beaucoup de choses. J'ai écrit 2 livres, j'en ai écrit un 3e. Mais oui, l'apprentissage, la curiosité pour moi, c'est la meilleure qualité d'un employé, d'un entrepreneur, d'un humain, c'est d'être curieux. Fait que je vais lire des livres sur la business, mais je vais lire des livres sur la religion, je vais lire des livres sur la spiritualité, sur les... Moi, j'adore l'international, je veux conquérir le monde, c'est une de mes obsessions, donc je vais lire sur beaucoup sur ce qui se passe en ce moment en Haïti. Je veux comprendre les conflits socio-économiques. Donc, je dirais que j'ai une bonne curiosité. Puis oui, l'université de Sherbrooke était l'université où je voulais aller. Parce qu'il y avait un programme coop, je m'étais dit ça va être cool, je vais pouvoir travailler, puis m'ont refusé parce que j'avais pas les notes. Et j'ai été le plus jeune chargé de cours à la maîtrise, sans avoir de maîtrise en communication marketing. Donc pour moi, c'était une vengeance, c'est un peu de la vie. Il y avait un petit côté malsain d'ego qui disait haha, que vous avez eu.
Puis bon, t'as parlé de lecture, podcast, c'est quoi que t'écoutes? C'est quoi les livres qui t'ont marqué, on va dire, dans les 2 derniers mois?
No Rules, The Rules de Netflix, culture d'entreprise.
Très bon livre.
J'applique énormément de choses. On a encore, tu sais, un truc un peu fou qu'on a fait, augmentation de salaire de 15 à 20% de tous nos employés en plein COVID. On paye toujours tout le monde over the market. Donc, on a fait une étude, chaque salaire. Donc, chaque employé, on a demandé à la personne en culture et talent d'appeler d'autres entreprises, voir comment ils payent pour ce poste-là. Puis on dit, paye 20% de plus. Baker et des chasseurs de tête, là. C'est-à-dire, on va couper ça, on va payer les gens chers, mais on a que des A. Donc, on a vraiment une équipe aujourd'hui. Il y a personne dans mon équipe aujourd'hui que je voudrais voir partir. Dans le temps, il y avait toujours une coupe de pommes moins forte. Tu sais, on a des snipers. Fait que ça, c'est un des livres que j'ai adoré. Évidemment, Master of Skill de Reid Hoffman est un classique. Sort toujours des nouveaux épisodes. Je vais les écouter, clairement de ce côté-là. Mais tu sais, j'écoute de tout, là. Tu sais, j'écoutais hier Sexe Oral de Lisandre, tu sais, dans l'auto. Tu sais, il y a un super podcast sur la vie sexuelle. Je suis curieux de nature. Fait que j'ai pas une chose. Je vais vraiment être sur plusieurs sujets, plusieurs curiosités. Mais, je dirais qu'en ce moment-là, tu sais, Master of Scale, je me suis mis, je réécoute les vieux épisodes aussi, intéressants. Puis No Rose Rose, pour moi, c'est devenu, c'était From Good to Great, qui était mon top 1 dans le temps de Jim Collins. Mm-hmm. Aujourd'hui, No Rules, The Rules, puis aussi l'autre livre, l'autre fondateur de Netflix, les deux ont vraiment une histoire, je trouve, incroyable.
Intéressant. Je t'amènerais, tu as dit que tu dormais 4 heures par nuit, ça ressemble à quoi la routine de Dominique Gagnon avant, pendant et après le travail?
Je travaille bizarrement, tu sais, ça fait rire le monde, puis mes étudiants beaucoup ça. Moi, je considère que les gens qui travaillent plus que 40 heures sont stupides. Fait que désolé, je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs en hyper-croissance sur la ligne. En fait, j'ai toujours dit les gens qui se valorisent par le nombre d'heures travaillées sont des gens qui sont non-performants. Ou sont des gens qui ont besoin de reconnaissance. Mais tu sais, c'est une des choses que j'ai appris. Là, je l'ai faite des 60 heures, des 70 heures, des quasiment dormir au bureau. C'est stupide. T'es non productif, t'es pas bon. Je travaille en moyenne, je dirais, 40 heures semaine. Malgré que j'en sais là-dedans, je mets l'aspect que je suis prof à l'université, l'aspect que j'ai plusieurs implications. Fait que chez Connect & Go, je fais peut-être 28-30 heures. Pourquoi? Parce que j'ai appris à déléguer, j'ai une équipe de snipers, je sais dans quoi je suis bon. Fait que j'ai une routine, je te dirais, généralement vendredi après-midi, toujours à la maison avec les enfants. Je suis papa de Charlotte et Béatrice, bientôt 6 ans pour Charlotte, 4 ans pour Béa. Très rare que je sois à la maison le vendredi. Je touche pas mon téléphone si je suis à la maison avec les enfants. Faut vraiment que ce soit urgent pour que je décroche le téléphone. Plus de téléphone, j'ai fait l'erreur d'être sur mon téléphone sans arrêt devant mes enfants. Je me remets en forme, le plus gros défi, j'ai pris 40 livres depuis le début de la COVID. Pourquoi? Parce que j'étais stressé, j'ai mangé, j'ai bu. J'ai arrêté de faire du sport, donc là, je recommence. Habituellement, je courais tous les matins. C'était quelque chose d'important pour moi. Je me couche à 11h, minuit, je me lève à 4h du matin. Généralement, je vais me lever. Avant, j'allais courir. Par la suite, je vais répondre à des emails. J'adore travailler quand les gens sont pas là. Fait que je vais répondre à des emails. Je vais souvent me taper un Netflix avant de partir au bureau pour décompresser. Puis journée au bureau, assez flexible. Tu regardes, tu sais, aujourd'hui, je pense partir vers 2h. À la maison voir les filles parce que je les ai pas vues hier. Donc, je suis pas ça. Après la COVID, là, qui va bientôt terminer, je reste quand même un voyageur. Je veux conquérir le monde. Généralement, je fais 100 000 milles d'avions par année. donc dans l'avion 3 semaines, parce que je considère que les relations d'affaires se font pas comme on fait là. Je crois pas au Zoom, je crois pas au Teams, j'y croyais pas avant, j'y crois pas aujourd'hui non plus. Tout dépendant de l'objet, mais pour du développement d'affaires, pour du deal making, pour moi c'est face à face avec une bonne bouffe, une bonne bouteille. Donc je vais continuer à voyager énormément.
J'adore ce que j'entends, Dominique. T'es tellement honnête dans ce que tu dis aujourd'hui. Ça se sent, ça se voit. Donc, sérieusement, ça a été fascinant comme entretien. Si les gens veulent en savoir un petit peu plus pour toi, je sais que tu fais certaines chroniques dans des journaux bien connus. Comment qu'on peut en apprendre un petit peu plus sur toi présentement?
Je suis blogueur dans les affaires. Donc, j'écris généralement chaque semaine ou chaque 2 semaines, principalement sur le sujet de la santé mentale ou de l'innovation, qui sont mes 2 sujets de prédilection. LinkedIn, facile à trouver sur LinkedIn. Je donne... Encore une fois, il y a toujours l'avant et l'après-COVID. Généralement, 20aine de conférences par année, qui est la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de l'inventer, qui est un peu une conférence sur mon histoire. Donc, il y a plusieurs personnes qui l'ont déjà vu, je la donne. Puis, je suis assez facile à trouver, je suis assez loud de nature. Donc, si quelqu'un veut me trouver, pas hésiter à m'écrire.
Merveilleux. Ben, Dominique Gagnon, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. On va suivre de près ce qui se déroule avec Connect & Go dans les prochaines semaines. Et bien, pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. J'espère que le 87e épisode de Hypercroissance vous aura permis de découvrir un entrepreneur québécois qui va vite, même très vite. Assez inspirant et surtout fascinant de voir que Dominique arrive à accomplir autant de choses en seulement 40 heures par semaine de travail. C'est clairement la chose qui m'a le plus surpris dans l'entretien. Également, je vous invite à me contacter directement par courriel si vous aimeriez me présenter des entrepreneurs que vous voudriez avoir sur le podcast. Mon email est dans les notes de l'épisode. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.